Dialoguant sur le Congolais, présenté par Alain Roux.
Bonsoir, 8 mars, journée internationale de la femme. Investir dans la femme rurale et la jeune fille pour un avenir meilleur, tel est le thème national de cette journée. Au regard de ce thème national, quel état des lieux faire à ce jour des conditions de la femme en RDC et quelles sont les perspectives? Pour en parler, nous recevons comme invité Honorable Eve Bazaïba, députée nationale et présidente de la Ligue des femmes congolaises pour les élections, également sénatrice honoraire. Bonsoir, honorable.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Madame Solange Loachiga, secrétaire exécutif du caucus des femmes congolaises du Sud Kivu pour la paix. C'est une plateforme de défense des droits de la femme. Madame Loachiga, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Comme d'habitude, vous êtes très nombreux à nous envoyer vos réactions. Honneur aux dames, Chantal Faïda de Goma en Nord Kivu, l'état des lieux des conditions de la femme congolaise laisse à désirer malgré les différents instruments internationaux et nationaux qui protègent ses droits. Ceci dû au fait qu'elle demeure dans un état d'asservissement face à l'homme jusqu'à ce qu'elle soit indépendante économiquement, accès facile au crédit et à la terre. Comme perspective, un dicton dit, les femmes sont une force, elles ne sont pas un pouvoir parce qu'elles ne sont pas organisées. Fin de citation. Pascal Bombetto de Kisangani en province orientale, la femme congolaise a opté pour une politique au moindre effort, de facilité et voire même de légèreté. Elle doit travailler sérieusement pour définir sa place dans la reconstruction du pays et non brandir son statut féminin comme un critère de méritocratie. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiopatou.net.
8 mars, célébration de la journée internationale de la femme autour du thème national, investir dans la femme rurale et la jeune fille pour un avenir meilleur. Plusieurs manifestations ont eu lieu à travers le pays, ici à Kinshasa. La célébration de cette journée a été marquée par le défilé des femmes sur le boulevard triomphal dans la commune de Lingala, devant le palais du peuple. La cérémonie était présidée par le premier ministre à l'intérim, Louis Koyagalo. L'ambiance sur place avec Donna Malimba.
Ce sont les tout petits du lycée Boyende de Kinshasa, tous élèves de la maternelle mais aussi du primaire, vêtus du pagne qui en premier ont ouvert le défilé de ce jeudi. Elles ont alors été immédiatement suivies par les femmes de l'église armée du salut, puis par les femmes de l'armée nationale habillées, elles, en tenue militaire. Bref, au total, ce sont finalement plusieurs centaines de femmes qui ont défilé ce jeudi à Kinshasa, des femmes de toutes classes et horizons sociaux, enfants comme adultes, femmes d'associations mais aussi des institutions, en passant par celles des entreprises. Un défilé qui a été présidé par le premier ministre intérimaire Louis Koyagalo, accompagné par la ministre Marie-Ange Loukiana et la numéro 2 de la MONUSCO, Leïla Zerougui, tous ont dans leur message respectif des circonstances rendu hommage à la femme congolaise en général, mais aussi et surtout à la femme rurale pour son travail appréciable en faveur de la communauté.
Merci Donat Malimba. Honorable Eve Bazaïba, un mot d'abord sur la célébration de cette journée.
Les mots que je peux faire pour la célébration de cette journée, c'est rendre hommage à toutes les femmes rurales, les mamans du village. Grâce à elles, elles supportent notre vécu quotidien. Celles qui sont à Kinshasa, dans les périphéries, au Bas-Congo, Bandundu, Sud-Kivu, Katanga, Équateur, Kasaï Occidental, Kasaï Oriental, Nord-Kivu, Maniema, Province Orientale, et celles qui ont fait que je sois aujourd'hui élue députée nationale, les femmes rurales de Bassoko.
Et comme d'habitude, on reproche toujours aux organisatrices le fait que toutes les femmes rurales qui sont ciblées sont très loin de toutes ces manifestations.
Elles ne sont pas très loin de toutes ces manifestations. Le pays est organisé en format décentralisé celles de Bassoko, par exemple, elles ont fait aussi leur défilé en présence de l'administrateur du territoire à Kanisi, et il en est de même pour les femmes qui se trouvent dans toutes les provinces. Nous ne sommes pas loin d'elles, nous sommes en contact permanent. Au cours de l'émission, nous allons les dire comment est-ce que nous travaillons avec elles ensemble.
Un internaute nous écrit, c'est Opango Wilfredi, dit l'évaluation objective des thèmes sous lesquels ont été célébrées les journées précédentes de la femme nous pousse à affirmer qu'il ne s'agit que des slogans qui n'ont jamais été mis en application dans le sens que les différents intervenants n'accommodent pas leurs agissements à l'esprit des idées que contiennent ces thèmes, Madame Bazaïba.
Merci beaucoup, et il a totalement raison, et c'est une interpellation. Lorsqu'on parle de thèmes chaque année, il s'agit d'attirer l'attention sur la problématique des femmes dans un tel milieu, dans un secteur donné. Pour cette année, il s'agit des femmes rurales. Donc, le gouvernement est appelé à faire un effort à intégrer dans les politiques et programmes de développement la problématique des femmes rurales.
Alors, pour revenir à notre question principale, à la première partie de cette émission, au regard de ces thèmes, quel est l'état des lieux faire à ces jours des conditions de la femme en RDC?
Les conditions de la femme en RDC sont précaires, et à plus forte raison, les conditions de la femme qui vit dans les milieux ruraux. Les femmes qui vivent dans les milieux ruraux sont coupées de ce qu'on appelle développement. Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, elles font un effort pour le vécu quotidien de la population. Aujourd'hui, nous disons lutter contre la pauvreté, lutter contre la faim, c'est grâce à elles. Elles produisent des manioc, mais comment est-ce qu'elles travaillent? Elles travaillent à la main, à la houe. Elles n'ont besoin que d'avoir une autonomisation en termes de mécanisation. Si elles travaillent un hectare ou demi-hectare, disons, à la main, mais si les moyens sont plus modernes, elles pourront produire encore plus. Les femmes qui font des petits travaux, du genre fabrication de l'huile, elles ont besoin d'avoir de l'énergie. Si elle est faite à la main, elle chauffe au bois. Mais s'il y a l'énergie, avec des moyens un peu plus modernisés, elle pourrait produire encore beaucoup plus de l'huile, beaucoup plus de savon. Les femmes qui font la pêche, il en est de même. Elles le font avec des moyens rudimentaires. Mais si les moyens sont plus ou moins moderniser les déplacements, elles vont un peu plus loin avec même des moteurs et des hors-bord pour l'aider à produire de manière plus ou moins industrielle, même si c'est petite et moyenne industrie. Et si elle a aussi la possibilité de l'énergie pour la conservation de ces produits, chaîne de poids par exemple, nous allons manger du poisson quand même au niveau des chefs-lieux. Mais ces poissons pourrissent parce qu'elles ne savent pas les conserver. Elle le fait avec des moyens rudimentaires, ça nous parvient ici pourri et parfois c'est jeté. Il y a aussi un problème des transports. Quand je dis la politique du gouvernement d'intégrer la problématique des femmes rurales avec leur production, il y a les poneys. Nous, au Parlement, nous avons adopté la loi pour rendre opérationnel les fonds nationaux pour l'entretien routier, l'entretien des réseaux routiers. Donc, les routes de dessert agricole, s'il y a des routes, ces femmes-là auront la possibilité d'aller vendre dans un milieu qui leur permettra de vendre leurs produits et qui leur permettra aussi d'acheter les produits de première nécessité. Elles peuvent vendre du pondou à moins cher, mais la bourse, cette bourse-là ne lui permet pas de s'acheter du savon, du pétrole, de l'allumette, ou tout simplement se soigner. Et donc, il y a beaucoup de choses sur la problématique des femmes rurales.
Avant de donner la parole à Madame Solange Wachiga, il y a cet auditeur Ben Bantampi de Lubumbashi Katanga qui dit il y a un problème dans plusieurs regroupements des femmes rurales. Ce sont les femmes non rurales qui dirigent. Elles ne savent pas grand-chose sur les gros problèmes que les femmes rurales éprouvent, Madame Bazaïba.
Oui, elle peut avoir raison et c'est relatif parce que je peux donner mon exemple. Je ne vis pas dans les milieux ruraux, c'est vrai. Je suis parlementaire aujourd'hui, mais je suis allée demander le voix auprès de femmes rurales avec qui j'ai commencé à investir depuis un bon moment. Nous travaillons ensemble avec elles. Elles reconnaissent en moi une porte-parole. Bon, c'est vrai que nous, les dirigeants, nous les encadrons parce que nous avons un certain nombre d'informations que nous devons partager avec elles. Et il n'y a que la personne qui a une petite lumière qui peut tirer les autres. Comme on dit dans le royaume des aveugles, les bornes sont des rois, entre guillemets, permettez-moi cette expression. Mais sinon, ce n'est pas dans le mauvais sens. Et au fil du temps, lorsque nous partageons l'information, c'est le pouvoir. L'information, par exemple, comment comment capitaliser le travail que vous êtes en train de faire, les techniques agricoles, les semences améliorées, comment est-ce qu'on peut les utiliser, les outils un peu plus pointus de performance, comment est-ce qu'on peut les utiliser, les saisons pour l'agriculture. On ne peut pas, par exemple, appliquer l'agriculture dans les contre-saisons, vous n'allez pas avoir la production. Tout ça, elles ont besoin de ces informations. Et c'est vrai qu'elles sont parfois souvent dirigées par les femmes qui ne sont pas rurales, parce que les femmes qui ne sont pas rurales ont l'information, ont un peu de moyens nécessaires à leur apporter.
Madame Solange Loachiga, je rappelle que vous êtes la secrétaire exécutive du caucus des femmes congolaises du Cultivo pour la paix. C'est une plateforme de défense des droits de la femme. Madame, comment cette journée a été célébrée au Cultivo?
Merci beaucoup. Avant tout, je veux dire bonne fête à toutes les femmes congolaises, et particulièrement les femmes rurales, et mes sentiments de compassion à toutes les femmes congolaises qui restent jusque-là, victimes de toute forme de violence basée sur le genre. Je salue aussi le travail abattu par des femmes courageuses comme l'honorable Eva Bazalda. Nous sommes de terre avec elle, nous la soutenons et ensemble nous pensons que la lutte pourra aboutir. Au sud de vous, la journée a été célébrée en milieu rural à Kangoumou, où les femmes de Bukavu se sont déplacées pour rencontrer les autres femmes rurales et pour montrer que cette journée internationale de la femme qui a focalisé son attention sur la femme rurale, les femmes urbaines sont de cœur avec ces femmes rurales et qu'on ne doit pas avoir un souci entre les femmes rurales et les femmes urbaines, parce que les femmes rurales vraiment constituent un escalier, et si cet escalier est brisé, toute la lutte que mènent les femmes urbaines ne peut pas aboutir. Mais d'autres femmes ont préféré mener des actions de charité, telles qu'une organisation membre du caucus qui a jugé bon aller visiter les malades de l'hôpital Chiriri, l'hôpital Chiriri qui est un hôpital urbano-rural, et donc ces femmes les ont appuyées physiquement, moralement, matériellement, et elles ont même contribué à faire sortir certaines femmes de l'hôpital. Une synergie de femmes enseignantes qui a posé ces tâches. Voilà comment est-ce la journée a été célébrée au sud de
vous. Alors, la même question pour vous, Madame Loachiga. Quels sont pour vous, quel est l'état des lieux que vous faites à ces jours, des conditions de la femme de manière générale et de la femme rurale en particulier en RDC?
Oui, merci beaucoup. Je pense que je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit l'honorable Eva Bazaïda, qui a focalisé l'attention sur la femme rurale. Mais d'une manière générale, je voudrais dire qu'il y a d'abord les présenteurs culturels qui demeurent encore un frein à l'autonomisation de la femme, et particulièrement la femme rurale. Il y a aussi cet analphabétisme qui fait que la femme rurale en particulier ne participe pas à la gestion de la chose publique, mais aussi cette femme rurale qui doit vivre avec la terre cultivée, on trouve qu'elle n'a pas accès à la propriété foncière et au crédit. Et aussi, on trouve que la femme rurale, en particulier, et la femme congolaise, qui constitue le poumon du ménage, mais malheureusement, le constat est que cette femme, et particulièrement la femme rurale, elle est passée à la gestion des ressources, et donc elle n'a pas les contrôles, quand même de le début jusqu'à la fin, c'est elle qui fait le gros du travail, mais quand il s'agit de contrôler et de gérer, elle est exclue. On trouve aussi que la femme congolaise s'est lancée dans le secteur de l'entrepreneuriat depuis que l'État congolais ne répond pas effectivement à ses responsabilités. Cet entrepreneuriat, c'est la femme occupe des nouveaux rôles dans ce domaine-là, demande aussi des capacitations et bien sûr des moyens pour que cette femme puisse mener cet entrepreneuriat et répondre bien aux besoins, non seulement de sa famille, mais également de la communauté en vue d'une autonomisation effective. Je suis bien assisté sur le plan légal et il y a un message qui a été déjà été envoyé. Il y a toutes les dispositions légales qui concernent toutes les femmes. Mais tant que ces dispositions légales ne seront pas respectées, la femme congolaise, et particulièrement la femme rurale, ne pourra pas participer à la gestion de la chose publique. Mais aussi, on trouve que si les femmes ne sont pas représentées dans les espaces de prise de décision, on ne pourra pas parler de la contribution au changement social en RDC. Mais aussi, cette femme rurale, qui doit cultiver. Si nous essayons de voir le contexte de la RDC, on trouve que beaucoup de femmes ont fui leur milieu à cause de l'insécurité. Et donc, pour amener ces femmes à cultiver, à récolter et rendre service à toute la nation, il faut lui garantir une sécurité pour qu'ils cultivent et récoltent, et pas cultiver et pour que les autres récoltent. Mais je ne voudrais pas terminer sans parler du taux élevé de la mortalité infantile et maternelle, et celle qui est affectée davantage, c'est la femme. Voilà en bref l'état des lieux. Et donc, vraiment, l'état des lieux n'est pas rose, malgré quelques avancées qu'on peut observer par-ci, par-là. Mais on trouve que beaucoup d'efforts doivent être fournis, surtout par les autorités congolaises.
Merci, Madame Solange Bachiga. La réalisation me signale que nous avons encore beaucoup de difficultés à joindre le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. Madame honorable Eve Bazaïba, Madame Bachiga a souligné également le fait que les femmes devraient prendre part dans les instances de décision. La Ligue des femmes congolaises pour les élections, qui regroupe les femmes politiques de tous les courants que vous dirigez, en appelle par exemple en ce moment au président de la République en réclamant une femme à la tête de l'Assemblée nationale et du gouvernement central. Pourquoi et qu'est-ce que ça pourrait changer?
Oui, merci beaucoup. Ça, c'est très important. Nous savons que tous ces mois de mars, l'attention a été accordée aux femmes rurales, mais en tant que femmes politiques, nous avons aussi une lecture tout à fait particulière à faire à ces mois de mars. C'est le mois de mars 2012. C'est vrai, c'est le mois de la femme, le mois des enjeux politiques en République démocratique du Congo. Et les enjeux politiques, c'est la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale, la désignation d'un formateur du gouvernement. Le chef de l'État, aujourd'hui, le 8 mars, vient de désigner un informateur du gouvernement pour essayer de procéder à des consultations, obtenir la majorité parlementaire. Et enfin, on aura un formateur du gouvernement. Les femmes doivent aussi comprendre ces enjeux politiques. Nous voulons pourquoi nous voulons à ce ensemble nous puissions atteindre les objectifs des millénaires en capitalisant les apports des hommes et des femmes en vue de ce que le Congo, dans la plus haute instance de prise de décision, même si elle demeure informelle, la réunion interinstitutionnelle, qui est aussi la présence d'une femme. Et la femme peut être dans cette instance que si elle anime une des institutions de la République. Et l'opportunité qui nous est offerte actuellement, c'est l'Assemblée nationale et le gouvernement. Alors, nous laissons au pouvoir discrétionnaire du chef de l'État de savoir, en tant qu'autorité morale de la majorité présidentielle, aujourd'hui en la recherche de la majorité parlementaire, qu'une femme de la majorité anime l'institution Assemblée nationale ou alors le gouvernement. Pourquoi? Parce que nous estimons que le bilan ensemble que nous avons fait des cinquantenaires de la gestion de notre pays de 1960 à ce jour, nous nous retrouvons dans les PPTI et pays pauvres et très endettés. Nous estimons avec les analyses actuelles que seuls les hommes qui constituent la minorité de la démographiquement République démocratique du Congo gèrent. Et les hommes ne maîtrisent certainement pas sans le vouloir tous les paramètres de la problématique qui relève de la personne humaine. Au Congo, nous sommes constitués de l'homme et de la femme pour faire les Congolais. Donc nous avons besoin de l'apport et des hommes et des femmes dans les instances de prise de décision qui intègrent les programmes de développement de notre pays.
Et en relançant cet appel au chef de l'État, en fait, on comprend que les femmes voudraient avoir sur un plateau ce qu'elles n'ont pas pu avoir par les élections.
Non, ce n'est pas vouloir avoir sur le plateau. Nous ne disons pas qu'on donne un don aux femmes, c'est qu'on reconnaisse aussi les compétences des femmes. Quand je parle des femmes de la majorité, par exemple, s'il y a un poste qu'on doit, que la majorité doit avoir et être représentée à ce niveau-là, et que dans la majorité, autant on désigne les hommes, on peut désigner les femmes. Il y a des femmes qui regorgent des compétences, qu'on peut aussi reconnaître ces compétences pour qu'on leur donne la possibilité, on leur laisse en fait la possibilité de pouvoir gérer. Parce que très souvent, on pense que les femmes ne sont pas capables d'aller faire. Dans ces pays, à tout moment, chaque fois que le gouvernement, la République avait fait confiance aux femmes pour assumer tel ou tel poste de responsabilité, elles se sont acquittées avec bravoure. Nous en avons, les exemples sont les gens, même dans les postes dits de souveraineté de l'État, aux affaires étrangères, au ministère de la Justice, par exemple, on l'a fait. Et maintenant, les femmes peuvent aussi gérer au niveau de la députation nationale. Comme président de l'Assemblée, on a vu avec Mme Philomène Omatouko à la Constitution, un parlement non élu, mais elle a été capable de diriger cela. Et maintenant, une femme peut le faire, et une femme peut le faire même au gouvernement à la primature.
Dieudonné Dubunya en province orientale dit ceci: la femme congolaise doit se battre pour sa liberté et sa libération, car jusqu'à présent, même celles qui sont supposées défendre la cause de la femme au Parlement en RDC ne font que du puvisme. Alors, maman congolaise, libère-toi toi-même, car la liberté s'arrache, personne ne la donne à l'autre, et si quelqu'un disait qu'il te la donne, dis-lui tout simplement qu'il est un gros menteur. Honorable Bazin.
Oui, je vais réagir en même temps par rapport à ce qu'un autre compatriote avait dit, les femmes doivent travailler sérieusement. Les femmes travaillent sérieusement. Au moment où l'État, entre guillemets, est devenu démissionnaire, ce sont les femmes qui tiennent le poids de leur foyer. Elles le font. C'est grâce aux femmes que les enfants étudient, c'est grâce aux femmes que les enfants peuvent accéder au centre de santé, au-delà de toutes les difficultés. Vous n'avez qu'à voir dans les milieux de négoces pour la survie de la République comment est-ce que les femmes travaillent, et vous n'avez qu'à voir leur horaire. Elles se lèvent tôt et elles se couchent tard pour la sécurité de leur famille. Nous ne disons pas qu'on nous donne sur un plateau servi, nous l'avons déjà souligné, nous sommes en train de nous battre comme tous les hommes d'ailleurs se battent. D'ailleurs, les hommes parfois demandent même plus le pouvoir qu'on peut le penser. Mais les femmes sont en train de se battre, vous avez l'émergence des femmes à tous les niveaux. Nous sommes dans la compétition. Par contre, en ce qui concerne la désignation, il ne s'agit pas d'une compétition, il s'agit tout simplement d'une volonté politique. Voilà pourquoi nous disons que les femmes congolaises attendent l'expression concrète de la volonté politique de la part du président de la République pour qu'une femme soit à la tête de l'Assemblée nationale ou du gouvernement, parce qu'à chaque fois qu'il dit, il présente un discours, et ils n'ont jamais pas manqué à parler de la dimension genre. Et maintenant, nous entendons l'effectivité parce que l'opportunité s'était faite.
Merci beaucoup, honorable Bazaïba. Nous n'avons toujours pas pu joindre le professeur Bob Kabamba, professeur à l'Université de Liège en Belgique, également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale. La réalisation me signale par contre que nous avons en ligne le professeur Jean-Paul Yawidi Mainzambi, professeur à l'Université pédagogique nationale. Professeur Yawidi, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir.
Alors, professeur, comment vous avez accueilli la célébration de la journée internationale de la femme Peugeot?
Ce n'est pas une situation particulière. S'il y a des gens qui veulent bien faire de ces telles situations, c'est dans notre pays des situations particulières. Peut-être c'est pas le président de l'excuse. Il y a une journée de la femme, il y a une journée des hommes. En fait, lorsque nous sommes en train de parler de la femme, il faut savoir entre quoi nous une différence. Parce que une femme n'est pas l'épouse, et une épouse n'est pas la maman. Nous sommes en train de parler de la femme en tant que femme, ou bien nous sommes en train de parler de l'épouse, ou bien nous sommes en train de parler de la maman. Alors, mais compte tenu de la situation actuelle où nous célébrons la journée de la femme d'une manière générale, c'est-à-dire un sexe différent de celui de l'homme, alors, on ne peut que, et c'est un moment où beaucoup plus les gens doivent réfléchir sur ce qu'est le rôle de la femme dans notre société. Actuellement, parce que nous sommes dans un monde en mutation. Alors, il ne faut pas parler de la femme traditionnelle, il ne faut pas parler de la femme moderne, mais il faut parler de la femme dans le contexte de notre société actuellement. Qu'est-ce que nous attendons de la femme? Et qu'est-ce que la femme a déjà fait? Et l'apport de la femme dans la gestion de la société est-elle positive ou négative? Quelles sont les faiblesses qu'on a constatées? Quels sont les points forts qu'on a relevés? De telle façon que nous puissions envisager l'année ici, 2012, l'envisager dans un contexte où on pourra bien définir les choses en ce qui concerne la femme, en tant que peut-être femme, ou bien en tant qu'épouse, ou bien en tant que maman.
Merci, professeur, d'avoir évoqué toutes ces questions. C'est celles, effectivement, que nous nous posons dans cette émission. Et je vais vous les retourner pour avoir votre réponse. En tant que spécialiste en éducation, professeur, quel est l'état des lieux que vous vous faites des conditions de la femme à ce jour en RDC?
Puisque nous devons considérer que dans la société, on a besoin de l'apport de tout le monde. Comme on a besoin de l'apport de tout le monde, cela veut dire que la femme n'a pas seulement à considérer son rôle maternel, mais la femme aussi a quelque chose à donner dans le sens, non pas à soutenir l'homme, mais dans le sens de sa contribution, du point de vue de ses capacités, de ses aptitudes. Alors à ce niveau-là, nous pouvons dire que nous avons un seul lieu où nous pouvons atteindre de façon positive l'apport de la femme, c'est l'école. Est-ce que dans nos familles, c'est les femmes, les personnes de sexe féminin, sont-elles envoyées à l'école? Si nous pouvons faire la recherche, ne fût-ce que dans un quartier donné ou dans une commune donnée, il y a combien de filles scolarisables et combien de filles sont parties à l'école? Et combien d'hommes scolarisables et combien d'hommes sont allés à l'école? Dans ce contexte-là, nous pouvons peut-être dire, écoutez, il y a des actions positives qui sont engagées en faveur de la femme, en faveur de la femme ou bien en faveur de la fille. À ce niveau-là, déjà, il y a des actions sont posées. Mais si la réflexion doit se limiter en parlant seulement de la femme, en tant que femme, à ce niveau-là, nous faisons les choses. Alors, mais j'aurais voulu, lorsque nous devons parler aussi de l'épouse, parce qu'on est épouse, ce n'est pas par le fait qu'on s'est marié à un homme, à un époux, mais on est épouse, on devient épouse. On doit apprendre à être épouse. Est-ce que dans notre société, il y a des centres de formation où l'on apprend aux femmes à être réellement épouse? Il n'y a pas aussi à considérer l'épouse, il y a aussi à considérer la mère. Ce n'est pas le fait d'avoir mis au monde un enfant qu'on est maman, qu'on est mère. Mais la mère, on doit apprendre à être mère, on doit apprendre à devenir mère. Donc tous ces éléments-là, il faut que les actions soient visibles au niveau de la société pour qu'on puisse dire que l'année prochaine, l'année 2013, il y aura certainement à évaluer ce que nous avons fait en faveur de la femme en tant que femme, en faveur de l'épouse en tant qu'épouse et en faveur de la mère en tant que mère.
Professeur, vous restez en ligne pendant que nous prenons cette illustration qui nous vient de Goma, où également la journée du 8 mars a été célébrée. Et c'était une occasion pour les femmes paysannes du territoire de Niragongo près de Goma d'exprimer leur ras-le-bol face à ce qu'elles appellent manque d'autonomie qui contribue davantage à leur pauvreté. Suivons ce reportage de Zirungala rendu par Kéline Côté.
Il convient tout d'abord d'indiquer que, de par sa situation géographique, le territoire du Niragongo est connu comme spécialisé en culture maraîchère. Ce sont essentiellement les femmes qui pratiquent la culture de la pomme de terre, du chou, des oignons, des carottes et des haricots dans les bas-fonds des nombreuses collines du secteur. Les femmes paysannes du Niragongo déclarent manquer d'autonomie, d'abord vis-à-vis de leur mari. Ce dernier déclare « Ces femmes ont toujours tendance à s'accaparer de tous les revenus du champ, au motif que la femme n'a rien amené de chez elle en venant au foyer et que donc tout appartient au mari qui ne donne que des miettes à la femme. » Manque d'autonomie ensuite vis-à-vis des soldats et de tous les combattants des groupes armés qui pullulent dans la région. Et ceci en fait que la paysanne se rend au marché pour écouler 20 kilos de pommes de terre par exemple. Elle est obligée de laisser au moins 5 kilos aux militaires et aux combattants qui contrôlent le secteur. Et comme si cela ne suffisait pas, elle doit en plus payer les taxes pour les administratifs locaux et cela sous menace. Il y a aussi la sécurité ambiante qui se caractérise par des viols et autres mauvais traitements de la femme paysanne de Niragongo par les mêmes membres des groupes armés.
Professeur Yawidi, en suivant ce reportage, vous êtes également psychologue. Peut-on dire que la femme paysanne est frustrée?
La femme paysanne est
frustrée.
Oui, certainement. Lorsque nous sommes, vous savez que la femme paysanne, elle ne vit pas en vase clos. Et doit, maintenant, il y a une certaine évolution de la communication. Elle est informée de ce qui se passe des femmes qui sont en ville. Alors, en comparant la façon d'être considérée au niveau des villages, et en comparant la façon d'être considérée des femmes qui sont considérées au niveau de la ville, à ce niveau-là, il faut y avoir ce que nous appelons la frustration. Alors, mais, faudra-t-il nécessairement considérer aussi ce que l'homme attend de sa femme qui évolue avec elle au niveau de son terroir? Mais si les attentes des hommes par rapport au comportement que les femmes manifestent et qu'il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de désavantage, il n'y a rien qui frustre l'homme, cela veut dire qu'on éviterait cette frustration du côté de la femme. Parce que la femme, nous pouvons supposer qu'elle est frustrée. En réalité, elle-même n'est pas frustrée. C'est pour cela qu'il faut des enquêtes. Poser la question aux femmes réellement, au lieu de supplier, de faire des supplications, poser à cette femme réellement si elle est frustrée compte tenu des comportements qui sont manifestés au sein de sa société par rapport à elle.
Professeur Yaoui dit la Ligue des femmes congolaises pour les élections que dirige Madame Bagaïba en appelle au chef de l'État pour avoir une femme soit à la tête de l'Assemblée nationale ou du gouvernement central. Qu'est-ce que ça pourrait changer d'après vous?
Non, il n'y a pas dire, il ne faut pas prendre une vision qu'il y aura quelque chose de changé. Mais je respecte beaucoup Madame Sénatrice Bagaïba pour continuer de ses réflexions que je trouve vraiment pertinentes. C'est une femme très engagée. C'est tout à fait normal. Tout le monde de notre pays peut revendiquer un poste. Mais quand elle revendique un poste, ce n'est pas dans un contexte où elle se voit faible. Non. Elle se dit que j'ai un apport, quelque chose à apporter à notre société, à son développement. C'est alors qu'elle trouve qu'elle fait. C'est une compétition. C'est une compétition, elle doit participer à cette compétition. C'est tout à fait normal. Elle ne se présente pas en personne faible, mais elle se présente en personne capable d'apporter quelque chose au développement. Et c'est tout à fait légitime pour ces ligues-là de pouvoir demander quelque chose. Mais cette demande, ce n'est pas en termes d'implorer. Il n'y a rien à implorer. Mais c'est question à présenter ses capacités, ses aptitudes pour dire que je suis capable. Nous sommes capables à faire ceci, tout cela. Mais pas par rapport à l'homme, mais par rapport seulement à l'être qui peut faire quelque chose pour le pays.
Madame Solange Vassiga, vous avez tout à l'heure souligné le fait qu'il y a beaucoup de lois mais qui ne sont pas respectées. Y a-t-il un problème de volonté politique ou de vulgarisation?
Oui, merci. Mais avant de répondre à cette question, je vais revenir sur ce que le professeur Yaoudi a dit, en parlant que c'est au niveau de l'école seulement où on peut voir l'apport de la femme. Là, je suis désolée d'attendre cela d'un professeur. Je pense que nos mères, nos tantes qui n'ont pas étudié ont pu contribuer pour le développement, pour la paix en RDC. Et voilà pourquoi même le Conseil de sécurité des Nations Unies a pu voter la résolution 1327 sur la femme, la paix et la sécurité. Mais comme l'année qui parle de la question de la femme, on tend à séparer la femme de la communauté et réduire cette question à une simple féminisation. Et pour ça, pour arriver à un développement durable, il faut tenir compte de la présence et des capacités des hommes et des femmes. Et donc, les femmes ont contribué dans beaucoup de secteurs, pas seulement à l'école, et cela, nous devons mettre ça dans nos têtes. Et voilà, si vous pouvez répéter la question.
Voilà, je vous demandais de savoir le fait de ne pas respecter toutes les lois votées sur le plan national et international en ce qui concerne les droits de la femme, est-ce un problème de volonté politique ou de vulgarisation?
Oui, d'abord, c'est un problème de volonté politique. Parce que quand nous avons les lois, qui doit faire respecter ces lois? Ce sont les décideurs, ce sont les autorités politiques. Bien sûr, un problème de vulgarisation est à un autre niveau où la population, et les femmes en particulier, doivent savoir qu'elles ont des lois qui les protègent, elles ont des droits et qu'elles doivent revendiquer. Mais la première responsabilité revient aux politiques qui doivent faire respecter ces lois. Et c'est là où, par exemple, il y a l'honorable Eva Bazaïba qui a dit, s'agissant de la nomination, le pouvoir discrétionnel de celui qui doit nommer. Donc, il ne peut pas dire que au sein de la majorité présidentielle, il n'y a que des hommes compétents. Il y a des femmes aussi compétentes dans la majorité présidentielle. Et si nous voulons arriver à une société équitable, je pense que les décideurs politiques et surtout les décideurs masculins devraient intégrer dans toute leur politique la perspective des genres afin d'arriver à cette société équitable.
Merci Madame Solange Wachiga. Le thème international de ce 8 mars est autonomisation de la femme rurale pour la paix et la lutte contre la pauvreté. Mais notez que déjà en RDC, une foire de l'entrepreneuriat féminin s'organise chaque année depuis 6 ans à Kinshasa. C'est justement pour promouvoir l'entreprise de la femme congolaise. Dona Madimba Mbaya, qui a visité l'édition de cette année, nous en donne ici un bref aperçu.
L'édition de cette année, comme les 5 précédentes, se déroule au même endroit, à savoir la cour du ministère du Genre, Famille et Enfants à Kinshasa. Elle décore ses plusieurs dizaines de stands, presque tous tenus par des femmes, avec comme élément à offrir au public des articles d'art, des vêtements conduits par de nombreuses associations de femmes, de la maroquinerie congolaise, mais aussi de nombreux livres, parmi lesquels de nombreux produits issus des champs appartenant aux associations de femmes, comme nous l'indique ici Ruth Nkodi, président d'une ONG de femmes active à Menkao, à la commune de Maluku.
Nous prenons les oranges. Nous transformons les oranges en jus d'orange. Moi, personnellement, j'ai déjà un contact avec une femme de l'Europe pour voir comment envoyer nos produits vers l'Europe.
Une initiative qui n'est pas la seule à retenir l'attention du public à cette foire, car les femmes médecins aussi, par exemple, n'ont pas hésité cette année encore à apporter leur contribution pour non seulement l'autonomisation de la femme, mais aussi et surtout au simple bien-être de tous. Docteur Niandabou.
Au sein de cette foire, nous assurons des consultations gratuites pour les populations, c'est-à-dire les plus démunies. Les femmes et les enfants surtout.
Notez en conclusion que la foire de l'initiative féminine de cette année ne doit en principe tenir que pendant une dizaine de jours. Commencée le 5 mars dernier, elle doit en principe se clôturer le 15 mars prochain.
Honorable Eva Zahiba, il y a quand même des femmes qui émergent, même si les conditions des femmes sont de manière générale très précaires, on l'avait dit. Il y a quand même des femmes qui émergent à travers cette foire, on l'a suivi, mais qui ne font qu'une infime minorité en guise de perspective. Que faut-il pour permettre à ces femmes de se développer également?
Il faut tout simplement qu'il y ait l'égalité des chances pour tout le monde. Là, j'emprunte les mots du professeur Yawidi qui a dit que le Congo a besoin de l'apport de tout le monde. Alors, pour que tout le monde, y compris les femmes, donne leur apport et que cet apport soit capitalisé, il faut qu'il y ait l'égalité des chances. Je reviens aux femmes rurales. La question de la terre. La femme est l'éternelle étrangère chez elle. Dans sa famille, on dit qu'une femme, c'est une étrangère parce qu'elle va épouser. Et elle sera épousée par un homme, elle ira dans l'autre famille. Quand elle va dans la famille de son mari, on dit qu'elle est étrangère, elle vient d'une autre famille. Lorsqu'elle est chez son mari, elle lui dit qu'elle travaille la terre. Elle a commencé à travailler la terre chez elle, dans sa famille, et lorsqu'elle va être mariée, elle quitte, elle laisse la terre, elle laisse tous les liens, elle va dans la famille de son mari. Elle peut y rester toute sa vie, mais il suffit d'un lien. Tout le temps, d'abord, on la considère que c'est une étrangère, elle ne peut pas prendre beaucoup de terres parce qu'elle vient d'une autre famille, etc. On ne lui donne pas le moyen de pouvoir contribuer à la reconstruction ou au développement. On ne lui donne pas le moyen de lutter contre la pauvreté parce qu'elle va produire comment? Parce qu'elle n'a plus confiance en soi. À tout moment, elle va commencer à travailler dans le provisoire, jamais dans le définitif parce qu'elle n'est pas sûre et le lendemain, son lendemain est incertain. Je prends le cas de madame qui tout à l'heure vient de parler de la transformation des oranges en jus. Il faut qu'elle ait le moyen. Elle produit en quantité, j'ose croire, minime, qui ne peut pas couvrir le besoin du pays. Voilà pourquoi nous continuons à importer du jus. Nous avons pourtant des orangeries ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donner les subventions comme on le fait dans d'autres cieux, mécaniser son travail pour qu'elle augmente la quantité que ça puisse nous couvrir. C'est le même cas pour le producteur de riz, c'est le même cas pour tous les travaux que les femmes sont en train de faire parce qu'elles le font de manière rudimentaire, elles ne parviennent pas à couvrir le besoin de sa communauté et puis le besoin de la population parce qu'on ne lui donne pas la chance.
Professeur Jean-Paul Yawidi, Franck Ouemboy Mundu dit pour la jeune fille, l'option éducative doit être la priorité, entre parenthèses, rendre effective la gratuité de l'école primaire et l'école obligatoire pour toutes filles en âge de scolarité. Il faudrait aussi évaluer et revoir la campagne de l'UNICEF toutes filles à l'école, car sans une bonne base éducative, tout investissement sera un échec pour les femmes rurales. Il faudra leur représentativité dans les instances qui ont en charge la femme afin qu'elle participe aux échanges pour son avenir, professeur.
Merci pour la participation. En fait, si je suis en train d'intervenir sur cet aspect des choses, moi je ne veux pas que nous puissions considérer jusqu'à ce jour la femme comme étant quelqu'un qui est rejeté de la société. Non. Et lorsqu'on doit parler de la gratuité de l'enseignement, il ne faut pas mettre seulement à l'exercice de la femme. Ça concerne tout le monde. À partir du moment où nous commençons à entreprendre une certaine différence, à ce niveau-là, nous sommes en train de pratiquer ce qu'on appelle le rejet et il y a des frustrations. En fait, lorsqu'on parle de cette égalité, il faut nécessairement parler de l'égalité de l'homme et de la femme. Mais cette égalité-là ne remet jamais en cause la différence des sexes. Ces sexes-là sont différents. La femme a un sexe différent de celui de l'homme. Et l'égalité n'est pas aussi une alternative à la différence. Au contraire, il faut beaucoup plus se penser en termes de similitude entre l'homme et la femme. Et c'est tout à fait normal que vouloir la gratuité de l'enseignement, cela veut dire que cette gratuité d'enseignement doit contenir et l'homme et la femme, puisque les problèmes se posent en termes généraux, pas en termes particuliers. Mais une manière de dire que nous pouvons encourager les parents, ils pensent qu'il a un garçon et une fille, et qu'ils voient beaucoup plus mieux à cause de l'argent qu'ils possèdent, envoyer beaucoup plus les garçons. Nous disons non, il faut que les parents saisissent cela en termes d'égalité. Nous devons voir, ils doivent beaucoup plus considérer les aptitudes de chacun de ses enfants. Et trouver mieux peut-être envoyer la fille, compte tenu de ses moyens suffisants, ou soit envoyer les garçons, mais pas prioriser les garçons. À partir du moment où nous devons éviter la différence, à établir cette différence entre l'homme et la femme, c'est à ce moment-là que nous allons prendre en considération l'homme et la femme.
Merci.
C'est trop au niveau mental.
Merci, professeur Yaouidi. Madame Wachida, il y a Jules de Kinshasa qui dit « La femme rurale réagit relativement à son mode de socialisation qui a été imaginé par l'homme. Aucune connaissance ne l'en sortira. Il faut une véritable révolution. » Je vous signale en passant qu'il reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Madame Wachida.
Oui, merci beaucoup. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut lutter contre les présenteurs culturels en travaillant plus sur les inégalités entre hommes et femmes à tous les niveaux, pour permettre effectivement à cette femme rurale d'avoir des ambitions dans tous les niveaux et devenir réellement autonome. Mais aussi, je veux insister sur l'éducation. La RDC devrait avoir accordé une priorité au secteur de l'éducation, comme on l'a dit précédemment, et surtout que les thèmes de la GIF s'est rapproché de tous les changements sociaux. Mais aussi, je pense qu'il faudra travailler sur la nomenclature des taxes pour permettre aux femmes qui sont dans le secteur informel à tous les niveaux amener son travail et donc revoir les taxes à la baisse et aussi revaloriser l'agriculture en assurant la sécurité pour que le fruit agricole soit réel. Voilà.
Alors, Madame Wachida, déjà en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir de la célébration de cette journée en guise de perspective pour vous?
Oui, en guise de perspective, cette célébration de la Journée internationale de la femme, non seulement une manifestation, mais aussi une interpellation et des femmes et des autorités pour voir comment nous tous, nous devons travailler pour améliorer les conditions de vie de toute la population congolaise, et particulièrement la femme rurale.
Merci Madame Wachida, honorable Eve Bazaïba, et à Charles Moutagoma qui dit « Dans mon village, les femmes n'accèdent pas au crédit et pourtant une coopérative de crédit est là. Elles n'ont pas des biens capables de constituer des hypothèques et elles ont besoin de beaucoup d'autorisation maritale pour certains actes. » En guise de conclusion, honorable, qu'est-ce qu'on peut retenir?
Ce qu'on peut retenir, il a totalement raison, c'est qu'on peut retenir que le gouvernement doit faire un effort, en tout cas cette fois-ci, d'intégrer dans son politique et programme de développement la problématique de la femme dans toutes ses dimensions, et essentiellement pour cette année, il y a la question de la femme rurale. tous ces obstacles qui ont été relevés ici, et on a parlé des obstacles légaux, nous sommes en train de nous impliquer à œuvrer à cela pour faire sauter ces boulots-là qui permettraient aux femmes de contribuer au développement de sa nation. Si la femme est autonome, la femme a l'égalité des chances avec l'homme, elle va donner le meilleur d'elle-même qu'elle a toujours donné, la manière dont elle soutient ses familles actuellement.
Merci. Professeur Yaouidi, un mot en guise de conclusion.
Oui, moi je dirais ceci, que lorsque nous sommes en train de parler de la femme, nous devons nous occuper de la femme en tant que femme, nous devons aussi nous occuper des épouses, celles qu'on appelle épouses, dans les rôles qu'elle peut jouer à côté de son époux, comme aussi nous devons nous occuper des mamans, merci, dans les rôles qu'elles peuvent jouer en tant que mère des enfants.
Merci professeur, c'est par vous que nous terminons cette émission, tout en vous remerciant du fait qu'on vous a vraiment pris à pied levé, et merci beaucoup de votre intervention. Dialogue entre Congolais, c'est terminé pour ce soir. Bonne fête à toutes les femmes, au revoir.